Le journal de l'écho avec Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, focus sur l'union des marchés de capitaux à l'occasion de la journée de l'Europe. On l'évoquait hier déjà dans le décryptage écho à propos de Total. Cette idée est l'un des serpents de mer de l'Union européenne. Elle remonte en effet à 2015, mais n'a jamais été concrétisée. Et pourtant, l'unification des marchés, c'est ce qui a présidé à la première Europe, celle du charbon et de l'acier. En revanche, sur le marché des capitaux, les 27 ne sont pas encore accordés. Le sujet revient donc dans l'agenda d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire, qui souhaitent encourager les investissements transfrontaliers et créer donc un grand marché européen des capitaux. L'idée fait aussi son chemin chez nos plus grands partenaires européens, Allemagne, Italie, Espagne et Pays-Bas. Bonjour Marie Viennot.
Bonjour Anne-Laure.
Première question Marie, pourquoi aurait-on besoin d'un marché européen des capitaux ?
Techniquement, il n'y a pas d'entrave à la liberté de circulation des capitaux depuis 1988. Tout Européen a le droit d'acheter des actions et d'investir dans les entreprises de n'importe quel autre pays. Mais il n'y a pas de marché des capitaux unique, au sens où pour chacune de ces opérations, celui qui veut investir va devoir connaître la réglementation nationale du pays et surtout son droit des faillites. Il y en a autant que de pays européens, or c'est crucial, quand on investit, de savoir si on fera partie des créanciers prioritaires ou pas. Faire toutes ces recherches prend du temps, cela coûte cher. Il faudrait harmoniser l'ensemble des droits des faillites des 27, mais aussi les règles de protection de l'épargne. Voilà pourquoi c'est si complexe, techniquement et politiquement, de créer un marché unique des capitaux européens. Cependant, on ne part pas de rien. Depuis 10 ans que ce projet existe, aujourd'hui, un quart des investissements en capital risque dans l'Union européenne sont transfrontières. Mais cela veut dire que la majorité se fait en silo dans les frontières nationales. Une entreprise qui donc cherche à se développer a moins d'investisseurs rapidement mobilisables que si elle va sur les marchés américains. Et si elle commence à faire rentrer des investisseurs américains dans son capital, cela aura un jour une influence potentiellement quand elle voudra être cotée en bourse ou quand elle devra choisir un lieu d'implantation pour une usine. C'est une forme de délocalisation par la tête, par le cycle de financement. Mais les conséquences sont aussi concrètes que la délocalisation par le bas. Au lieu de fermer des usines ou un centre de recherche, on n'en a pas créé.
10 ans donc que cette idée du marché unique des capitaux a été lancée, la plupart des pays de l'UE étant réticents, il faut donc avancer dans un premier temps avec les pays volontaires. Dans son dernier discours de la Sorbonne, Emmanuel Macron s'est fixé 1 an pour mettre en place ce projet. Alors, est-ce réaliste, Marie ?
Réaliste, non. Mais le président français a raison de dire qu'il y a une urgence et il peut dorénavant compter sur l'Allemagne qui jusque-là n'était pas très allante. Alors admettons que les barrières institutionnelles soient levées, que les négociations techniques avancent rapidement et que les capitaux circulent plus facilement entre plusieurs pays. On aura en gros créé les bons conduits, mais il y aura un autre frein à lever et c'est un frein culturel. Car ce qui explique que les marchés financiers américains regorgent de tant de dollars, c'est aussi cette capacité à accepter que son épargne, sa retraite, soit exposée aux risques financiers ou boursiers. On trouve ce chiffre dans le rapport qui a récemment été rendu au gouvernement sur l'union des marchés des capitaux. En Europe, en moyenne, l'épargne des Européens est investie à 50% dans les produits sûrs, 60% même en France, alors que aux États-Unis, c'est 14%. Les pouvoirs publics peuvent inciter à la prise de risque, mais cela prendra bien plus d'un an pour changer les mentalités.
Marie Viennot, merci. On réécoute votre décryptage écho à la page du journal de l'écho sur le site de France Culture et dans l'appli Radio France. Et puis l'Europe toujours cherche à minimiser l'impact de ses bateaux sur le secteur de la pêche au Sénégal. Le pays accuse les navires étrangers, chinois, russes et européens de précariser ses propres artisans pêcheurs en venant piller la ressource dans leurs eaux territoriales. Un conflit réactivé avec l'arrivée à la tête du Sénégal de Bassirou Diomaye Faye. Quelques 50 000 pêcheurs sénégalais travaillent essentiellement sur des pirogues traditionnelles et sont confrontés à la concurrence de ces bateaux-usines étrangers auxquels ils imputent la raréfaction du poisson. Selon Bruxelles, l'accord en vigueur depuis 2019 entre l'Union européenne et le Sénégal sur le sujet représente moins de 1% de la pêche dans le pays. En France, les agents des stations du métro et du RER de la RATP qui travailleront pendant les JO pourront toucher jusqu'à 1 777 € bruts de primes. C'est ce que stipule l'accord signé entre les syndicats et la direction des transports en commun parisiens. 5 500 agents de gare et stations sont concernés. En moyenne, les 30 000 agents de la RATP qui travailleront pendant les JO toucheront une prime de 1 000 €. Les négociations concernant les agents de la SNCF sont, elles, toujours en cours. Enfin, c'est un phénomène de concentration qui n'épargne pas les plateformes de streaming. Disney et Warner Bros. Discovery vont lancer une offre commune de vidéos qui réunira les plateformes Disney+, Hulu et Max, de quoi consolider leur offre dans un univers devenu ultra concurrentiel. Les géants de la télévision font tous la course derrière Netflix, parvenu avant tous les autres à une taille critique qui lui permet d'être rentable désormais. Et puis l'union de Disney et Warner en fait donc de concurrents sérieux.